bonjour à toutes et à tous. Le thème des nouvelles vagues cette semaine, c'est le ventre. Éthique, médecine, danse, mouvement sont au programme de notre série qui se poursuit aujourd'hui par, entre autres, des photographies de ce que l'on met dedans.
Ah, monsieur. Dites-moi, avec un radis, qu'est-ce que vous me conseillez?
Ah, monsieur pourrait prendre un petit muscadet.
C'est sec ou c'est doux?
Plutôt sec.
Je préférerais plutôt doux.
Alors, sauterne.
C'est doux?
Ah, c'est très doux.
C'est pas trop doux?
Ah, si, c'est doux. Voulez-vous un demi-sec?
Non, je préférais un demi-doux. Non, écoutez, donnez-moi, parce que vous ne savez pas. Attendez, je vais m'occuper, moi. Vous allez voir.
Ventre affamé n'a pas d'oreille, voilà qui est clair, et laisse chacun des auditeurs gérer ses repas en fonction des émissions qu'il a vraiment envie d'écouter. Sur la question en revanche de savoir s'il est préférable de prendre la parole le ventre vide ou le ventre plein, il y a plusieurs écoles. D'aucuns vous diront que manger avant de faire de la radio par exemple vous expose à des maux tendant vers une douce sieste, une énergie moindre car accaparé par la digestion. D'autres vous diront que commencer une émission de radio avec rien dans le ventre, c'est s'exposer à un ralentissement hypoglycémique, voire risquer de tourner de l'œil ou encore donner à entendre quelques gargouillements. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que les équipes qui fabriquent vos programmes radio quotidiennement parlent depuis toujours et avant toute chose de leur ventre. C'est déjà nous assurer que le nombril n'arrive qu'après. Il est 14h, passé de 1 minute, vous écoutez France Culture et bienvenue à tous dans les Nouvelles Vagues. Ces nouvelles vagues, nous pensons qu'elles sont le fruit de découvertes marquantes et nous avons demandé cette semaine à la cinéaste Laetitia Merli de sonder ses souvenirs à la recherche de ces moments-là. Son travail porte depuis plusieurs années sur le chamanisme contemporain en France et en Mongolie. Elle est aussi directrice du festival international Jean Rouch et aujourd'hui, elle nous raconte sa découverte du film Ourga. C'est en 1991 et Nikita Mikhalkov y met en scène Gombo, un jeune éleveur mongol. Musique de la steppe vers 14h50. C'est le troisième moment de cette semaine consacré au ventre. Lundi, la doctorante Delphine Lance rapportait de ses terrains de recherche aux États-Unis et en Ukraine des paroles de femmes porteuses. Hier, mardi, avec la gastro-entérologue Francisca Joly-Gomez, nous nous demandions ce que l'on sait de ce que l'on a dans le ventre et proposions un instantané pédagogique des connaissances liées notamment à l'intestin. Intestin instantané, on n'est d'ailleurs pas bien loin et aujourd'hui, c'est la frénésie d'images de ce que l'on met dans son ventre et qui peuple les réseaux sociaux, à commencer par le plus fameux Instagram, qui retient notre attention. L'histoire de la peinture ne manque pas d'images de repas, ni de nourriture, ni de ventre repu, ni de ventre creux. Il en va de même pour l'histoire de la photographie, du cinéma, et évidemment de la publicité. Alors tout comme nous questionnions hier le succès en librairie des livres scientifiques liés au système digestif, nous émettons l'hypothèse que cette avalanche d'images de nourriture est le nom de quelque chose. Mais de quoi? Raphaël Marchal, votre blog enrandoignon.fr a une déclinaison en fil Instagram et ça réunit des articles sur des chefs étoilés que vous placez par ailleurs dans le cadre d'une activité aussi facturée par Enrandoignon. Et ces articles portent sur des restaurants, sur des recettes, bref, c'est vraiment de manger dont il est absolument question chez vous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup. Ils sont pas tous étoilés?
Ils sont pas tous étoilés?
Non, il y a un peu de...
Parce qu'il y a un onglet qui s'appelle étoilé, voilà. En fait je les ai crus tous étoilés, mais non?
Dans cet onglet, oui.
Ils le sont tous.
Et dans les autres, ils le sont un peu moins, mais c'est tout aussi
bon.
Clairement, ouais, je trouve.
Bah, j'espère.
Et oui, il est question de manger, ouais.
Hélène Binet, vous êtes cofondatrice de La Ruche qui dit oui?
Non, je ne suis pas cofondatrice.
En tout cas, vous avez une ruche dans La Ruche qui dit oui.
Voilà, j'ai une ruche dans La Ruche qui dit oui. J'étais là au début de La Ruche qui dit oui.
Et vous signez parfois des articles sur le blog laruchequidioui.fr?
Oui, exactement. En fait, on a monté un magazine en fait, pour nos membres, mais aussi pour le grand public, autour de l'alimentation et de l'agriculture.
Et qui est sous-titré « Ne mâchez plus les yeux fermés », ce qui est assez révélateur de ce qu'on y trouve. Et puis, avec un duo récemment baptisé, un nom très facile à dire, « Fruchtruc », vous organisez ou allez organiser des événements autour de la nourriture, plutôt hors ligne?
Oui, l'idée c'est d'organiser donc à la Gaîté Lyrique,
un lieu à Paris,
qui a lieu à Paris. Oui, pardon. Les deuxièmes mardis du mois, des rendez-vous pour tous les gourmands et toutes les personnes qui gravitent autour de la food, pour qu'ils puissent réseauter, s'échanger les bons plans, goûter, papoter.
Quand on dit la food, on dit juste la nourriture traduite en anglais ou on dit autre chose ?
Non, on dit ça. On dit la nourriture, mais c'est vrai que nourriture, alimentation, on n'a pas vraiment encore trouvé le bon mot en France. Alors des fois, on dit food.
Food, c'est plus pratique, ça va plus vite.
Ça va plus vite, il y a moins de lettres.
Aitor Alfonso, vous êtes critique, gastronome, amateur et par ailleurs professeur en classe prépa. Professeur de quoi ?
Professeur d'espagnol, en classe prépa littéraire, oui.
Et donc, ces critiques gastronome amateur, vous les postez où ?
Alors, moi, j'écris pour un guide de cuisine, de restaurant contemporain qui s'appelle Le Fooding, que les auditeurs connaissent peut-être. Du coup, moi, les papiers que j'écris sont édités de trois manières. D'abord, il y a un format papier traditionnel, il y a un site internet et puis il y a aussi une application. Voilà. Donc, ça circule par ces trois biais-là.
Je dis que la première chose qui a retenu notre attention pour cette émission, c'est l'avalanche d'images qu'on a vues déferler depuis des années sur différents réseaux sociaux, d'images de ce qu'on met dans le ventre. Alors par exemple, je m'adresse à vous Raphaël, puisque vous avez un compte Instagram. Ça fait combien de temps que vous photographiez les choses qui passent ensuite dans votre ventre ?
Je les photographie depuis que j'ai un appareil photo, mais je les partage depuis un an avec les autres.
Avant d'avoir un fil sur ce réseau social, vous aviez pour habitude de prendre en photo votre nourriture.
Oui, mais c'était pas dans un but d'écriture ou de racontage. C'est juste que je trouvais ça beau et ça me fascinait. Et puis, en fait, j'ai jamais tellement pris des paysages en photo. J'ai toujours photographié des gâteaux, des brioches, mais c'était pour moi. Enfin, c'était mes souvenirs de vacances, quoi.
Pour vos souvenirs de vacances, vous photographiez votre nourriture.
C'était mes souvenirs. J'y allais pour ça.
Non, mais en même temps, on est là pour interroger ça. Mmh. Est-ce que tous, vous avez aussi autour de cette table eu l'habitude de photographier la nourriture comme souvenir de vacances, par exemple ?
Alors, la nourriture, mais en brut. Moi, j'ai beaucoup de photos de champs, de vergers, de marchés. Voilà. Mais par contre, pas de photos de mes plats, parce que souvent, je ne les soigne pas forcément. Vraiment, et puis c'est pas facile en plus à prendre, ça peut être horrible une photo de plat.
Moi je ne photographie que les plats des chefs, je vous rassure.
Ah ouais, c'est ça, pas les autres. D'accord.
Et Hélène Villeneuve, donc ce rapport entre le souvenir et ce qu'on a dans l'assiette, c'est quelque chose qui est, ou en tout cas ce qui va peut-être finir dans notre assiette, c'est quelque chose qui fait sens pour vous ?
Moi je me rappelle souvent des moments, des bons moments, je me rappelle ce que j'ai mangé. Plus que presque qu'une discussion, mais je serais capable de dire exactement ce que j'ai mangé à tel repas il y a 4 ans. Voilà.
Et vous, Aitor Alfonso ?
Moi, oui, aussi loin que je m'en souvienne, quand je pars en voyage, je prends des photos de mes plats, des plats beaux ou laids d'ailleurs. J'ai en tête là les photos prises la première fois que j'ai découvert au Vietnam des œufs couvés. Mmh. Donc face à l'horreur, face à l'effroi, une photographie que j'ai revue l'autre jour d'ailleurs, c'est amusant. Donc oui, je pense que ça permet de fixer le souvenir qu'une assiette, c'est au fond un portrait, un paysage, enfin peut-être même un visage dans l'assiette quoi, qui se dessine. Qui permet de fixer des moments, des souvenirs, des saveurs.
Hélène Binet dit que c'est pas très facile de photographier une assiette. Vous diriez ça aussi, Raphaël ?
Je trouve ça plus facile de la dessiner quand elle est pas terminée. Je trouve ça plus facile.
Vous dites de la dessiner. C'est à dessin ou c'est juste un lapsus ?
J'ai dit dessiner.
Ouais.
Fini. Enfin, complète. En fait, je me rends compte en me faufilant un peu dans les cuisines que quand un chef commence à dresser un plat. Il va mettre 3 éléments, 4 éléments, c'est très lisible. Et on peut encore faire une photo. Puis on se dit, bon, c'est fini. Puis il en ajoute un autre. Donc on dit, bon, on s'arrête là. Et en fait, il y en a encore 30 autres. Et on ne sait jamais quand ça se termine. C'est hyper compliqué, je trouve, une fois qu'ils ont mis les émulsions et toutes ces herbes et fioritures, de rendre vraiment service à ce qu'il y a en dessous, quoi. Donc, moi, j'aime bien l'idée de la photo avant que le plat soit terminé. Mais c'est pas facile, mais en même temps... Moi, j'ai envie de raconter exactement ce que j'ai vu. Donc,
et pas nécessairement ce que vous avez mangé. Est-ce que vous...
Si, bien sûr, mais une photo, ça ne se mange pas. Enfin, j'ai aucune envie que les gens se fassent un avis sur une photo. C'est-à-dire que je la mets pour qu'ils aient un avant-goût, mais vraiment ce qui m'intéresse, c'est le goût, quoi.
Donc, qui est peut-être même l'avant-goût qu'on a nous lorsqu'on reçoit l'assiette. C'est-à-dire qu'au fond, fixer l'assiette avant même de l'avoir goûté, c'est un avant-goût par les yeux qu'on se procure à nous-mêmes, et qu'on essaie peut-être de donner aux autres. Donc c'est l'incomplétude de la photo, mais c'est aussi déjà l'annonce de ce qui va venir peut-être.
Et c'est aussi peut-être une façon de recomposer le processus, alors pas forcément même qui précède la digestion, mais d'abord on voit ou l'on sent ce qu'on mange, et ensuite on l'ingère. Si vous ne publiez pas forcément des photographies sur un réseau social, est-ce que vous en regardez en revanche, Aitor ? Est-ce que vous allez sur Twitter, Instagram ?
Pas vraiment. Ou alors oui, mais avec mon réseau proche, c'est-à-dire que j'ai un certain nombre d'amis bec fin, mangeurs, goûteurs polymorphes. Enfin, donc je regarde les leurs parce que je le prends aussi comme une sorte de conseil. J'aime leur goût souvent, ou parfois, et du coup ça me guide. Mais je suis pas, je suis pas un très grand voyeur de la bouffe sur Instagram, non, à vrai dire.
Et vous, Hélène Binet ?
Alors nous, en fait, à La Ruche qui dit oui, on a lancé un hashtag qui s'appelle La Vie en Ruche. Pour que les gens nous, donc sur Instagram, pour qu'en fait ils nous racontent un petit peu ce qu'ils vivent dans cette expérience de...
Alors n'oubliez pas juste votre micro, voilà.
Dans cette expérience de ruche. Et donc ils postent tous les jours soit des photos de légumes bizarres, soit des plats cuisinés. Donc, soit je dis, il y a des choses qui sont belles et d'autres qui sont moins belles quand on est amateur, mais à la limite peu importe, soit leur expérience dans les champs. Et je suis ça parce que c'est un peu le feuilleton de cette aventure-là. Et après je regarde, moi je vais un peu sur Pinterest en fait.
Qui est un autre réseau social.
Un autre réseau social où il y a pas mal de tableaux. Parce que c'est souvent aussi très joli, quoi. Mais je suis pas complètement accro comme certains. Il y a des blogueurs qui passent leur journée, en fait, sur ces réseaux-là. Moi, j'y vais de manière assez modérée.
Il y a des choses assez amusantes, si je peux intervenir. Il y a des sites ou des pages Facebook qui sont devenues célèbres, qui sont des parodies, en fait, qui publient des plats laits.
Il y a un Tumblr là-dessus qui est absolument hilarant.
Très, très drôle, ouais.
Où on voit des photos de plats ratés qui sont vraiment qui donnent vraiment pas envie de
qui donnent des horreurs,
de mettre le bout de fourchette. Et Raphaël Marchal, est-ce que vous regardez les photographies des autres sur ces réseaux sociaux?
Oui, je regarde un peu ce que publient les chefs qui voyagent, parce que souvent ils ont une curiosité énorme et ils bougent tout le temps. Et je trouve que ils ont un don pour aller choper ce qui est pas hyper attractif à l'œil, mais qui est en fait très intéressant sur, vous l'avez dit, des légumes un peu marrants, un truc qu'on connaît pas. Après, non, je connais même pas Pinterest et je suis pas trop d'autres. Enfin, j'ai pas très envie d'aller voir ce qui se raconte à Paris, parce qu'on le vit, mais ailleurs, ouais, beaucoup.
C'est vrai que les chefs sont en bonne posture pour trouver des choses rares, curieuses, quoi. En ce moment, René Redzepi, par exemple, le chef danois bien connu, est en Australie. Il publie des photos de lui avec un crabe royal qui devait faire, je sais pas, un mètre d'envergure.
Oui, c'est ça.
Ben voilà, quoi.
C'est vraiment eux qu'il faut suivre parce qu'ils sont, je vous parlais tout à l'heure de la mise en place et du dressage d'une assiette avant qu'elle soit terminée. Quand vous suivez les réseaux sociaux d'un chef, vous avez les mini poches à douille avant qu'ils mettent le gel. Justement, René Redzepi, il avait posté un truc, mais ça fait peut-être un demi centimètre sa poche. Et c'était juste pour mettre un mini confit de citron. Ça, c'est des choses qu'on peut pas voir. Même si vous allez chez Noma, il y a peu de chances pour que vous voyez une mise en place à 8h du matin dans des cuisines. Donc ça me fascine. Après, oui, des plats dressés à Paris, je vais plutôt aller les manger, quoi.
Et quand on suit, par exemple, ses amis, vraiment ses amis proches ou sa famille, ça veut dire qu'on connaît la manière dont se nourrissent nos copains ou les copains de nos copains ou éventuellement nos parents, nos tantes, nos cousins. Ce qui finalement est une étrangeté un peu, non ?
Je ne sais pas si sur ces réseaux-là, on suit vraiment sa famille et ses copains. Ouais. En fait, c'est un peu différent de Facebook ou Twitter. On va plutôt suivre des gens qui ont les mêmes goûts, pour le coup. On suit des blogueurs, on suit des gourmands, mais ce n'est pas encore hyper répandu. Tout le monde ne se met pas à poster sur Instagram sa photo du repas. Donc, c'est quand même des gens qui sont quand même assez avertis. Et c'est là qu'on va suivre, en fait, un peu ces influenceurs. Mais je sais pas ce que mange ma sœur, par exemple. Elle est pas,
oui, voilà, parce que c'est quand même, statistiquement, c'est quand même assez rare dans une famille ou dans un groupe d'amis d'avoir deux qui font le même métier. Enfin, moi, j'en ai aucun, quoi. Et tant mieux. Je suis ravie.
C'est pour des amateurs qui sont passionnés.
Ou des gens qui mangent. Enfin, je veux dire, tout le monde à peu près.
Mange,
on a la chance de manger à peu près chaque jour. Donc,
moi, je vais savoir ce qu'ils ont mangé parce que je leur pose la question, mais pas parce qu'ils l'ont posté sur Instagram, quoi.
Et ça, c'est une question que vous posez
à tout le temps.
Au téléphone.
Ça les rend fous. Je veux toujours savoir ce que.
Allô, bonjour. Comment vas-tu? Qu'est-ce que t'as mangé ce midi?
Vraiment. Et ils se moquent de moi, mais j'ai toujours posé cette question, quoi.
Depuis l'enfance, depuis l'adolescence.
Et quand on me répond « je sais plus », je deviens folle. Quand à 16h, je demande à mon meilleur ami ce qu'il a mangé et qu'il me dit « je sais plus, Raph, je sais pas », eh ben je bloque.
Parce que vous vous en souvenez, évidemment.
Parce que c'est pas possible pour moi d'avoir oublié. Donc je pose tout le temps la question.
Et vous vous en souvenez aussi par la vue ? Vous vous rappelez toujours de l'aspect qu'avait votre déjeuner ?
Non, ce qui me marque, c'est les goûts. Je me souviens des plats parce que je les ai aimés. Mais il y a des choses très belles, mais si ça... Enfin, j'ai un souvenir d'un dessert en forme de cactus, qui était très beau. Et en fait, ça ne m'a pas du tout marqué, donc je l'ai oublié. Je ne sais plus trop ce qu'il y avait dedans. Si j'avais adoré, je m'en souviendrais.
Moi, je trouve que les plats inoubliables sont quand même rares, et tant mieux, je veux dire. C'est rare et c'est fort de se rappeler très précisément de quelque chose qu'on a mangé il y a des années. Moi, j'ai quelques plats comme ça en tête.
Aussi,
Et c'est très émouvant, non ?
Très émouvant. Et puis, ça surgit vraiment comme une espèce de réminiscence. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, tiens, on se souvient d'un coup.
On en a envie, oui.
Ouais, ouais.
Ça revient un peu.
La queue de homard de la grenouillère chez Alexandre Gauthier, quoi. Formidable, enfin. Ouais. Donc c'est assez rare et ces images ressurgissent d'un coup. Dans ce flot d'images incessant, effectivement, les gens publient énormément, on voit beaucoup de photos de bouffe.
Oui.
D'un coup, il y a des souvenirs plus forts que d'autres qui ressurgissent.
Oui, oui.
Et qui, eux, sont porteurs d'une expérience plus totale de ce moment dans lequel on était à la grenouillère, à manger cette queue quasi crue d'homard, etc.
Vous n'allez pas vous faire prendre au piège, Hélène Binet, par la question de Raphaël Marchal. Vous, par exemple, ce midi, vous savez, alors il est 14h16, si tant est que vous ayez déjeuné avant, mais vous savez ce que vous avez déjeuné.
J'ai révisé quand elle a s'est exprimée. Oui, j'ai mangé des pâtes. Mais des pâtes petit épeautre, d'un paysan qui transforme ses pâtes.
Et vous, qu'est-ce que vous avez mangé à votre venir ?
Moi, j'ai dîné chez l'ami Jean hier. Autant vous dire que je suis rentrée en roulant. Et j'ai un gros dîner ce soir, donc j'ai pris un gros petit-déj. Mais je vais sauter le déjeuner.
Et vous ?
Moi, j'ai mangé un menu à 10 euros chez un Libanais à côté du lycée dans lequel je travaille.
Et moi, me demande ma réalisatrice Somanina, j'ai mangé un bol de pâtes de soja aux 5 saveurs, trop salé, avec de la sauce soja, de l'huile d'olive et du coriandre surgelé.
Quand on voit quelqu'un qui mange de la soupe, toutes ces représentations par exemple du thé. Le thé apparaît à la fin du XVIIe et devient une espèce de boisson à la mode, comme le Coca-Cola il y a quelques années. Le thé, le café, le chocolat. Et les représentations abondent. Donc on devait en boire énormément. Et puis c'est vrai que la chocolatière, la théière apparaissent, disons 20 ans après que les breuvages aient été importés, soit du Mexique, soit de Chine. Mais quant au quotidien, je resterai avec la poule au pot d'Henri IV. Et c'est très difficile à dire, vraiment. Et en plus, ça veut dire qu'il faut à la fois analyser la petite bourgeoisie et la petite société des villes. Il y a un excellent livre d'ailleurs qui s'appelle Le Petit Peuple de Paris. Là, on s'aperçoit, c'est une étude des domestiques au XVIIIe, passionnant. On s'aperçoit par exemple du glissement insensé que ces domestiques, qui commencent à être de mieux en mieux logés, du glissement qu'ils font dans leur matériel de cuisine.
Alors, on entend ici une archive de 1990, diffusée sur France Culture dans les Nuits Magnétiques, et cette femme, probablement historienne, parle de la difficulté de faire savoir et de représenter la nourriture de ce qu'elle appelle le petit peuple. Alors, en vous écoutant éventuellement dire vos menus de ce matin, ou mon menu de ce midi, on peut avoir une sorte d'idée de la nourriture quotidienne, mais à regarder les sites, les critiques gastronomes, y compris amateurs, ou les blogs, ou les réseaux sociaux, on a l'impression que tout ce qu'on mange, tout ce que mangent les autres est extraordinaire. Or, tout ce que nous mangeons, on va être honnête, ne l'est pas. Est-ce que vous diriez que ces images-là reflètent une version très nouveau riche ou riche tout court du rapport à la nourriture ? Parce que même vous avez parlé de la queue de homard à la grenouillère. Bon, voilà, c'est pas tous les jours.
Ah mais non, heureusement d'ailleurs que c'est pas tous les jours. Enfin, moi, j'ai pas envie de manger tous les jours comme à la grenouillère. Enfin, je veux dire, on passe 4 heures à table, on boit un certain nombre de verres de vin, on mange des produits rares, on n'a pas envie de ça tous les jours, et c'est pour ça qu'on y va d'ailleurs. Et au quotidien, moi, il m'arrive de manger de manière très banale, enfin, des pâtes avec de l'huile d'olive.
Et ça, c'est pas très documenté ou je me trompe ? Les pâtes à l'huile d'olive ?
Vous voulez dire qu'on ne met pas tellement ça sur Instagram?
Ça, c'est pas très raconté, c'est
oui,
pas très documenté, il n'y a pas beaucoup d'images.
Oui, mais enfin, disons... Oui.
Ouais, les produits bruts, ils sont quand même... Hein, Alors, c'est vrai que soit on va avoir le plat très travaillé, soit la courge coupée en deux avec juste le petit bol à côté, ça va être un peu mise en scène. Mais on a quand même des choses assez simples sur ces réseaux-là. On n'a pas que du très sophistiqué. On n'a pas que du grand chef. Mais on a... le produit, il est quand même souvent bien mis en avant.
Et d'ailleurs, même dans les photos de restaurants en vue, le guide dans lequel j'écris moi, par exemple, ne fait pas la promotion de grands chefs étoilés. Donc il y a aussi une espèce de mode de la naturalité, d'un retour à la simplicité. On peut tout à fait trouver sur un fil Facebook ou que sais-je, d'un restaurant en vue, un simple pas de pâte avec un peu de poutargue dessus, par exemple.
Raphaël Marchal, est-ce que vous avez la même attirance pour les plats simples, pour les choses qu'on va vraiment manger entre 11h30 et midi si on a un creux et qu'on n'a pas le temps? Est-ce que vous avez le même appétit?
Oui, bien sûr. C'est un peu ce que disait Hector, c'est que c'est extraordinaire d'aller dans un grand restaurant et c'est un moment immense, mais c'est impossible de faire ça tout le temps, quoi. Mais c'est comme tout dans la vie, enfin, je veux dire... Vous pouvez pas faire la fête tous les soirs, vous pouvez pas vous habiller que en haute couture, vous pouvez pas vous déplacer que en jet privé. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui arrivent parfois zéro fois dans beaucoup de cas dans une vie. Parfois une fois, un restaurant, c'est pareil. J'ai un plaisir aussi immense à manger une tartine de comté et à manger le bouillon. Au topinambour et au coq de Atsushi Tanaka. C'est... De toute façon, moi, quand j'ai très faim, avant même de savoir ce que je vais manger, je suis excitée à l'idée de manger. Donc, que ce soit un grand restaurant ou un gros plat de pâtes, après, c'est vrai que, on le raconte moins, je ne sais pas si c'est une question de pudeur, mais un plat que vous faites chez vous, c'est moins, ça parle à moins de gens. Enfin, c'est un peu bizarre d'arriver en disant.
Bah pourquoi ce serait l'inverse qui serait logique?
Non, mais je veux dire, moi, j'oserais pas dire je me suis fait des super bonnes pâtes à l'huile d'olive parce que.
Bah pourquoi?
Parce que je sais pas. Ça veut dire que vous parlez de vous. Enfin, moi, quand je parle de ce que j'ai mangé, je parle des chefs. Enfin, c'est eux. Donc oui, je vais dire il y a un super producteur de pâtes de Petite Épeautre ou Aitor, il m'a fait découvrir une super huile d'olive, mais. En général, on raconte ce que les autres ont fait sublimement, quoi.
Et quand on raconte ce qu'on mange, on parle pas de soi.
Ben, ça dépend des gens.
De manière générale, moi, raconter ce qu'on mange, c'est pas une façon de faire son portrait.
Ah si, moi je me vante de ma soupe au potimarron, enfin personnellement, qui est d'une extrême simplicité, mais bon, elle est bonne. Enfin, je plaisante à moitié, mais si, bien sûr qu'on se raconte avec les plats, mais je suis pas, je suis. Alors, est-ce qu'il y a des grands sujets au fond pour la représentation de des plats ou de la cuisine? Probablement, mais je crois vraiment aussi que. Moi, j'ai déjà partagé, je sais pas, une soupe ou de simples pâtes que j'ai pu faire. Enfin, oui, ça me.
Mais pour répondre à votre question, les critiques et chroniques qu'on écrit, elles sont à la troisième personne. Donc oui, bien sûr que c'est personnel parce que c'est notre expérience et on y est allé. Et les lignes, elles viennent de ce qu'on a mangé, mais c'est pas jeu. Donc, enfin, en tout cas, au fooding...
C'est pas jeu, après, effectivement, c'est pas parce qu'on dit pas jeu que c'est pas de nous dont on parle, enfin.
Oui.
Et puis, en dernière instance, là, ce qu'on appelle la critique littéraire, de manière peut-être un peu pompeuse ou guindée.
Critique gastronome. Littéraire peut-être, mais gastronome.
Pardon, critique gastronomique, pardon, excusez-moi. Critique gastronomique, c'est pas autre chose que essayer de mettre des mots sur des ressentis de mangeurs. Donc, en dernière instance, c'est une affaire d'émotion. Effectivement, elle est probablement subjective et.
Par exemple, quand vous avez, Hélène Binet, accès à travers ce hashtag à des photographies des personnes qui sont reliées à ce réseau de la ruche qui dit oui, vous avez la sensation de pouvoir, à travers ces photographies de nourriture, voir des gens qui vivent, avoir accès à leur façon, à leur mode d'être, à la manière dont s'organise leur vie quotidienne.
Oui, moi je trouve que ça en dit beaucoup.
C'est très révélateur.
C'est très révélateur. On en a une qui poste 3 posts par jour à peu près, des photos ultra moches, mais qui fait une cuisine très 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 quotidienne. Et voilà, on sent qu'elle aime vraiment beaucoup faire la cuisine, qu'elle cuisine pour beaucoup. On voit quelque chose de très généreux. La photo est pas du tout esthétique et peu importe. Mais à travers elle, on imagine très bien que c'est des grandes tablées chez elle, et c'est, en plus c'est comme ça que ça se passe. Voilà, où elle est très ouverte. On va en avoir d'autres où, oui, je trouve qu'on lit des choses à travers les photos.
Mais justement, il y a toutes ces choses qu'on ne lit pas. Et c'est vrai que pour être absolument non spécialiste et m'être promené ces derniers jours sous toutes sortes de sites, critiques gastronomiques ou fils, je me suis vraiment rendu compte que, par exemple, ce que je voyais être acheté en bas de chez moi dans le Franprix ou dans d'autres supermarchés ou par des ouvriers qui vont s'acheter un camembert et une baguette, c'est quelque chose qui ne figure pas, alors que c'est une alimentation massive, absolument massive, de la manière dont les gens mangent en France aujourd'hui. On a vraiment l'impression d'une espèce de bulle un peu détaché du réel quand même, non ?
Mais parce qu'en fait, là, vous parlez un peu de la vie privée, c'est-à-dire que moi, justement, vous avez cité ce que je préfère dans la vie, c'est de voir les gens pique-niquer, faire leur pause déjeuner sur un banc et tout. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais je pense pas que ce soit par manque d'intérêt, je pense que simplement, c'est quand on est sur un positionnement de raconter un peu ce qui se passe dans les cuisines des chefs, c'est un autre monde d'aller raconter ce que quelqu'un mange chez lui ou ce que... Puis il faut demander... Enfin, je trouverais ça peut-être encore plus voyeuriste. Un restaurant, de toute façon, il s'expose. Il a un menu qui figure sur Internet. Tout le monde sait ce qui s'y passe. Donc, c'est du grand public et on le raconte, mais on n'a rien volé de secret.
Parce que quelqu'un... c'est aussi le principe des réseaux sociaux, c'est que la vie des gens sur les réseaux sociaux, elle est formidable. Oui. Donc quand on a acheté un mauvais sandwich qu'on a mangé sur un banc sous la pluie, on va pas se prendre en photo, sauf si c'est ultra cocasse. Mais donc ce quotidien-là, en fait, on le raconte pas. On le raconte quand on a envie de se mettre en avant d'une certaine manière, ou alors de partager dans un but précis, mais... Voilà,
c'est quelque chose de l'ordre du voyeurisme. Vous avez utilisé le fait de regarder quelqu'un manger ou de regarder ce que quelqu'un mange, et quelque chose de cet ordre-là.
Ouais, j'ai beaucoup de mal avec les photos prises de très près. Une assiette, on la voit jamais de plus près que 50 cm entre ses yeux et
quand on mange.
Quand on mange. Et on zoome pas avec les yeux sur une cuillère, quoi. Et je m'y ferais jamais, moi, aux photos. Prise dans le plat, quoi. Et ça, je trouve qu'il y a un côté voyeuriste parce qu'on n'est pas censé voir d'aussi près.
Qu'est-ce que ça dit, ça, par exemple ? Parce qu'il y a de nombreuses photographies qui jouent ça, vraiment la proximité avec la sauce, la viande qui dégouline.
Oui, alors si c'est un élément, c'est sublime. Par exemple, un litchi de très près, je trouve ça magnifique. Une pêche, un riz de veau, j'adore. Un plat, un peu moins. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que ça dit. Je trouve qu'un produit tel quel, on a le droit d'aller voir ce qui s'y passe. Un plat, c'est une construction qui est... unique, qu'on n'est pas censé voir deux fois.
Donc si on voyait les coulisses, en fait, c'est ça ?
Je sais pas, je trouve ça moins choquant d'aller voir dans une cuisine que d'aller au milieu d'un plat. Je sais pas, c'est bizarre, hein, mais ça m'a toujours gêné, moi. Comment ?
C'est soulever les jupes, en fait.
Ouais, un peu, ouais.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues, par Marie Richeux. There is a long, long road to reach your house, and I arrived just before the sunset. And you said, welcome with your eyes. And we said nothing at all. Oh, we have been to many churches, but we never believed. We have been to many churches, but we never believed. Thank you.
Hummingbird du groupe Cocoon. Et ça me fait penser que ce matin, j'ai passé un coup de téléphone à une jeune femme qui a un compte Instagram qui s'appelle Birdymail et qui a un compte privé. Donc elle partage ça avec ses amis. Elle photographie très souvent ce qu'elle mange. Et je lui ai demandé, mais est-ce que dans ton album de famille, tu te souviens avoir, dans les albums que tu feuilletais quand tu avais 7-8 ans, avoir des plats, vraiment des gros plans sur des plats? Elle me dit non, mais beaucoup de tablés, beaucoup de photographies de tablés, beaucoup de repas, beaucoup de mise en scène de repas ou même des tables de fête dressées, mais pas des plats. C'est assez rare finalement de voir les gens autour de la table et autour des plats dans les photographies, où je me trompe aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
Bah, sur les réseaux sociaux, c'est compliqué de... À partir du moment où vous avez un profil ouvert qui est visible par n'importe qui, c'est hyper délicat de mettre une photo de tablée familiale. Moi, je suis overprotectrice de mes amis, ma famille, qui n'ont aucune envie de se retrouver là-dessus. Donc, on peut faire une photo d'une table, moi je le fais, mais je ne mettrai pas des gens...
Ce qui rend la chose assez désincarnée, je pense par exemple aux objectifs ou aux missions que j'ai relevées là de la ruche qui dit oui, qui parle beaucoup du caractère très socialisant du repas, du fait de manger ensemble, de parler ensemble, d'être ensemble pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures autour d'une table. D'un seul coup, on a juste une assiette. Oui. Ça fait bizarre.
Mais c'est un point de vue de première personne, je crois que c'est ça. Au fond, un profil de réseau social, est-ce que c'est pas ça? C'est une espèce d'extension de la première personne. Mmh. C'est-à-dire, c'est moi et moi-même, moi voyant l'assiette comme je la vois au restaurant, mmh. Et beaucoup moins un lieu du multiple, un lieu de l'ensemble ou du partagé, quoi. Voilà, donc je pense que c'est pas propre à la cuisine, probablement, mais c'est qu'au fond, un profil, c'est un lieu de la singularité, quoi.
De la même façon, quand on écrit sur un repas, sur un plat ou sur un restaurant, ce qui compte, c'est ce qu'on mange et ce qu'on voit dans l'assiette et pas vraiment ce qu'on partage dans ce moment-là de dîner, etc. Si, ça par contre, vous l'écrivez.
Si, bien sûr. D'ailleurs, c'est le parti pris au fond éditorial du guide pour lequel j'écris. Je vais te parler de ce que je connais. On conçoit vraiment le restaurant comme une expérience la plus totale possible. C'est-à-dire que quand on rentre dans un restaurant, on va tenir compte de... la table, du dressage, de l'ambiance, des gens, du service, quel moment on a passé là. C'est-à-dire que ce qu'on cherche aussi, c'est des endroits dans lesquels on a envie de revenir, parce qu'on s'y sent bien, qui ne sont pas forcément chers. D'ailleurs, nous, on essaie de faire aussi tout un travail, enfin moi personnellement, pour faire la promotion de restaurants accessibles, abordables. Mmh. Et donc moi, je suis ravi quand on trouve une adresse à 12 euros ou à 10 euros, dans laquelle on sait que les gens iront. Et dans laquelle on peut retourner. Donc on essaye de décloisonner un peu tout ça et de pas faire de la critique gastronomique une espèce de contemplation, de dressage d'assiettes et d'en faire un moment qui procure du plaisir, en fait. Je crois que c'est ça l'idée, quoi.
Hélène Binet, alors sur ces images d'assiettes qui, d'une certaine manière, excluraient l'assemblée, qui semble pourtant très importante pour la ruche qui dit oui.
Alors... quand même, via ce réseau social, on partage quand même des choses, parce qu'en fait, on partage des produits en commun. C'est-à-dire qu'on a, acheté auprès des mêmes producteurs des agriculteurs qui travaillent de la même manière. Donc, il y a quand même cette notion de partage et de communauté, même si effectivement, c'est rare que l'on voit les grandes tablées. Et en même temps, c'est pas ultra photogénique, une grande tablée. C'est pas facile à prendre en photo. Et puis, il y a les questions de droit à l'image et tout ça.
Mais ça peut être trait aussi à cette espèce de contradiction dans les termes d'un réseau social, qui est un réseau mise en commun des singularités. C'est-à-dire, c'est d'articuler l'idée qu'on est tout seul face à son profil, avec d'autres gens autour, mais quand même tout seul, au fond.
Voilà. Non, mais en fait, l'autre chose, je crois, c'est que si, sur une grande tablée, vous essayez d'éviter de photographier les gens parce que chacun a sa vie privée... dans certains restaurants, vous avez un menu dégustation où tout le monde mange la même chose. Donc si c'est pour prendre une photo de la tablée avec 8 assiettes qui sont identiques, c'est pas très intéressant. Moi, je le fais dans des cas où c'est un format déj où chacun a pris quelque chose de différent et du coup, c'est hyper convivial et on se rend compte vraiment de ce qui se passe. Mais si c'est une attablée un peu plus gastro et un peu plus guindée, ce sera toujours plus lisible en n'en mettant qu'une.
Et dans ce que vous écrivez sur ces endroits-là, vous vous rendez compte, vous aussi, d'établir des moments que vous passez, de ce qu'il y a autour, de ce qu'on mange.
Oui,
parce que
du restaurant,
manger, c'est
oui.
Pas simplement
pas
mettre des trucs dans
son
ventre.
De ma table en particulier, mais des cuisines, de l'histoire du chef, de comment on est accueilli, de la déco, d'où vient le pain, le beurre, et ce qu'ils font l'eau pétillante eux-mêmes, de la température, de la lumière, enfin... c'est ce que disait Hector, on peut très bien manger quelque part et ne jamais y retourner parce qu'on a été, on se sent pas bien. Mais d'ailleurs, c'est compliqué à expliquer parce qu'il y a des endroits où on est mal assis, c'est bruyant, on nous tape dans le dos en passant, il n'y a plus rien à la carte. Et voilà, et pourtant on y retourne parce que pour une raison qui nous échappe, ça nous a plu, et inversement, enfin, un restaurant trop confortable, c'est très gênant aussi.
De la même manière, il y a des belles assiettes pas bonnes, enfin,
oui,
je veux dire.
Oui, bien sûr.
Des assiettes
inversement, d'ailleurs.
Qui, voilà, oui,
il y a des trucs très. Un ortolan, c'est pas très beau, hein.
C'est bon
bah, j'ai pas arrêté de le dire, on a pas arrêté de les manger.
Raphaël Marchal dit, je précise d'où vient le beurre, d'où vient le pain. Hélène Binet, la question de la provenance des aliments, mais aussi ce qu'il y a à l'intérieur des aliments qui vont bientôt finir à l'intérieur de notre ventre. C'est un sujet sur lequel vous êtes assez proactif et qui est vraiment l'un des objectifs aussi des articles que vous publiez.
Oui, nous on essaie vraiment de raconter une histoire en fait derrière chaque produit, de remonter. Et en fait, maintenant, quand on consomme à la ruche, qui dit oui, on n'a pas acheté des pommes, on a acheté les pommes d'Amélie, on a acheté les carottes de François, et on a toute cette histoire parce qu'on nous aura raconté que, je sais pas, que Nicolas a, par exemple, s'est mis au chouquel parce qu'il s'est trompé de ligne quand il a fait sa commande en commandant des choux. Enfin, on a plein d'histoires à raconter, et du coup, on mange vraiment de la même manière, d'une manière très différente. Et ça agit sur les enfants, c'est-à-dire que c'est assez rigolo. Moi, j'ai trois enfants, et à chaque fois que voilà qu'on est à table, c'est parfois un peu pénible pour les gens qui viennent de l'extérieur, mais ils veulent effectivement, ils nomment le produit, et du coup, ils terminent leur assiette parce que c'est un petit peu respecter en fait le travail qui a été fait par cet agriculteur, quoi.
Et ça, c'est quelque chose qui serait signe d'un temps, parce qu'on parle beaucoup de l'importance du produit, de l'importance des producteurs, ce qui a été merveilleusement récupéré évidemment par des machines marketing très très efficaces. Mais ça signerait quoi aujourd'hui, cette attention au produit, à celui qui fabrique, à l'endroit où ça a été fabriqué, en dehors du fait qu'on a appétit de ce qu'on mange, mais surtout d'histoire?
Bah, c'est la prolongation évidente et essentielle de ces 20 dernières années. Avant, on parlait du propriétaire, et puis le cuisinier, on n'en parlait pas parce que c'était pas lui qui recevait. Et puis, on a commencé à parler des chefs, et puis on a commencé à parler du pâtissier, et puis on a commencé à parler des vignerons. Et aujourd'hui, ce que je trouve incroyable, on parle de nos grands-parents, quoi, les agriculteurs. Enfin, je dis nos grands-parents parce que moi, c'était l'image que j'en avais quand j'étais petite. C'est-à-dire que je savais que mon grand-père faisait des pommes de terre, mais je savais pas qu'un jour on en parlerait sur un restaurant. Donc, je pense que ça s'arrêtera pas. C'est simplement que plus on creuse un sujet, plus on s'intéresse à toutes les tentacules qui en découlent.
Donc, alors pourquoi on le creuse, ce sujet, en ce moment? Pourquoi est-ce qu'on creuse le sujet de qu'est-ce qu'on mange?
Bon, il y a eu quand même vache folle, poulet à la dioxine. Enfin, on a quand même
l'alimentaire. L'industrie est allée un peu loin quand même.
Oui, on a l'alimentaire toutes les 5 minutes.
Donc effectivement, il y a eu des ennuis. Il y a récupération, il y a excès, il y a abus, il y a peut-être aussi un peu fanfaronnade. Mais quand même, je pense que le mouvement est plutôt positif. C'est aujourd'hui le principe d'une AMAP. On signe un contrat avec un agriculteur qui a un nom, une terre, une manière de faire pousser, souvent responsable, sinon bio.
Ce serait une sorte de réaction populaire à une industrie agroalimentaire qui a poussé les règles de la mauvaise alimentation vraiment très très loin.
Populaire,
ça serait chouette que ce soit vraiment populaire.
Ça serait bien que ça devienne,
C'est balbutiant pour le moment, mais je pense qu'on a vraiment envie de savoir.
Oui, parce que c'est vrai que les coups de gueule, genre, c'est pas moins cher de manger bien. Bon, c'est vrai dans une certaine mesure. Après, je peux comprendre qu'une famille très nombreuse qui fait très attention ne puisse pas tout s'offrir en bon. C'est-à-dire que, bien sûr que ça a un coût de manger des bons.
Tout s'offrir
et
quoi s'offrir aussi.
Voilà, exactement. Il faut manger moins et mieux. La viande, on n'a pas besoin d'en manger 100 grammes par jour, quoi. Et ça, je comprends que les gens se battent, et je trouve formidable l'attitude des cuisiniers et des producteurs là-dessus, parce que c'est pas forcément l'essence même d'une assiette. Et c'est vrai qu'on nous a appris à...
Vous voulez dire un morceau de viande?
Oui.
C'est ça?
Oui. C'est pas forcément la priorité, quoi. Et non, on n'aura pas de carence si on n'en mange pas autant, mais c'est vrai qu'on nous a appris que c'était important dans un repas de manger...
Mais le mythe du steak comme signe de la réussite, quoi.
Alors exactement.
C'est un truc contre lequel il faut absolument lutter, espèce de vieille séquelle des 30
glorieuses. C'est
horrible. Et ouais, il faut manger plus de poireaux et moins de veau.
En même temps, combien de photographies de gros hamburgers sur les réseaux sociaux, quoi. Enfin, je veux dire, ça reste encore bon signe de réussite, non?
Bien sûr.
Non, c'est anecdotique.
Oui.
Non, ça ne l'est pas.
Non, ça ne l'est pas, c'est encore prégnant, non? Bien sûr.
C'est encore très prégnant, non? Je ne sais pas.
Ah, ouais,
peut-être Raphaël Marchal, non?
Oui, mais un hamburger, c'est quelque chose que vous allez manger une fois parce que ça fait plaisir à tout le monde et c'est quelque chose d'universel. Et on va pas commencer à appliquer cette espèce de règle de manger moins de veau pour manger plus de poireaux à un burger. J'ai pas non plus envie que les gens soient malheureux. On va tous se tirer une balle si on fait ça et qu'on divise par quatre les quantités
de poireaux. On a dit moins, on a pas dit du tout.
C'est-à-dire non, mais ce que je veux dire, c'est que
il va falloir qu'on consomme moins de viande.
Ça s'applique au quotidien. Évidemment que c'est un bonheur. Abyssal de se taper un énorme double burger le dimanche avec double frites. Et
c'est signe de réussite ou pas?
Non, c'est pas cher un burger. Je pense qu'un steak, c'est plus show-off qu'un burger quand même.
Je crois que les filles prennent leur pied.
Qu'est-ce que t'en sais?
Comment ça, qu'est-ce que j'en sais? Je le sais.
Parce qu'elles...
Oui, parce qu'elles...
Comment tu sais que vraiment elles...
Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Elle feindrait l'orgasme?
C'est possible.
Tu rigoles.
Pourquoi? Presque toutes les femmes font semblant de temps en temps.
En tout cas, jamais avec moi.
Qu'est-ce que t'en sais?
Parce que je le sais.
Ah, oh, c'est vrai. C'est vrai. J'oubliais. Il y a un mec.
Ça veut dire quoi? On peut savoir?
Rien. Seulement, tous les mecs pensent jamais avec moi et presque toutes les femmes font semblant de temps en temps. Alors, c'est le bilan.
Et tu crois que je ne le verrai pas?
Non.
Ça m'a rigolé. Ça va bien?
Encore. C'est bon, oui. Oui.
Aitor qui dit c'est ma soupe de Potimor. Bon, bah, je vous renvoie à réécouter la scène depuis le début à Aitor parce que c'est Meg Ryan qui fait semblant de jouir à table. On entend les mains et elle tape. C'est dans le film quand Harry rencontre Sally et c'est une transition toute trouvée vers ce hashtag, ce mot-clé foot porn. C'est un mot dont on dit qu'il apparaît alors en 1977 dans un premier temps pour qualifier un livre de Paul Bocuse et ensuite en 1984 sous la plume de Rosalind Coward. Dommage pour elle quand même, ce dernier nom de famille. Alors, foot porn, ça vous évoque quoi autour de la table? Raphaël Marchal.
Ça m'agace un peu, moi. Je trouve que c'est une aberration. J'ai jamais compris pourquoi les gens avaient associé cette adrénaline et cette urgence de manger à quelque chose de sexuel. Enfin, oui, c'est vrai qu'un quelque
vous
chose...
Vous n'avez jamais compris?
Non, jamais. Mais je comprendrai jamais. Je peux comprendre qu'on compare le travail des cuisiniers à quelque chose d'un peu sensuel, parce que c'est vrai qu'il y a un contact avec la matière qui est évident, et il y a un lien qui peut se trouver, et surtout certains s'en vendent, etc. Donc j'accepte ça. De prendre du plaisir en mangeant un plat, oui, il y a un côté un peu fulgurant, adrénaline, etc. Mais... c'est exactement comme quand vous dévalez une piste de ski très vite ou quand vous conduisez à toute vitesse ou quand vous revoyez quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps et qui vous attend à la gare et que vous courez vers lui. C'est-à-dire que il y a ce côté excitation enfantine, mais ça n'a rien de sexuel. Et c'est pareil avec un plat, quoi. Bien sûr qu'il y a des moments où vous êtes en pleine conversation, l'assiette arrive et puis vous finissez votre phrase pendant que vous commencez à goûter. Et là, on peut pas l'expliquer, mais on s'arrête d'un coup. Parce qu'il se passe quelque chose. Et c'est vrai qu'il se passe quelque chose. Et c'est vrai qu'on peut avoir des frissons, qu'on peut être ému.
Ça fait quand même deux, trois lignes d'explication, je trouve, pour quelqu'un qui n'a rien compris.
Oui, c'est vrai.
Ça vous évoque quoi, Hélène Binet?
C'est vrai que le
des frissons.
Le plaisir en mangeant, oui, parfois on a un plaisir complètement intense en mangeant qui est proche qui peut être proche de l'orgasme, enfin, par moment.
Moi, j'associe, enfin, je crois que moi, j'associe aussi le manger et la sexualité, enfin, le rapport à la matière, à la bouche, au corps, enfin.
Donc c'est un mot bien trouvé finalement par les réseaux, à la fois les réseaux sociaux, à la fois.
Aitor, voilà, si tu réponds critiques. Oui à cette question, je quitte cette salle.
Non, alors sexualité, sensualité, porno, c'est peut-être pas tout à fait la même chose déjà, non.
Mais c'est le porno, peut-être. Que
oui, la mise en exhibition de ce qu'on mange, c'est pas tout à fait la sensualité. Enfin, de la manière que le porno n'est pas tout à fait la sexualité. Donc il y a le même rapport au fond. Qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que ça fait un peu marketing. Je sais pas bien ce que ça veut dire. On parle aussi de ruin porn, par exemple, pour ces gens qui mettent des photos de vieux édifices délabrés, Oui. Alors effectivement, on est dans une position du voyeur face à la chose, une chose qui est donnée en pâture comme ça, ou comme un objet, ou réifié, ou peut-être, je sais pas. C'est plus... Moi, je suis pas trop consommateur de food porn, donc je sais pas.
Alors ce serait quoi le food porn par rapport à ce qu'on a décrit depuis 45 minutes? C'est très différent. Comment est-ce que vous décririez ce que c'est que le food porn, Raphaël?
Ben, j'imagine que... ce que les gens qui l'emploient entendent par ce terme, c'est justement ce que j'aime pas. C'est-à-dire d'aller creuser au cœur d'une assiette. C'est soulever la jupe, quoi. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est de dire, on va pas juste photographier ce qui est sorti de la cuisine et ce qui nous a été apporté, mais on va plonger la cuillère dedans et vous montrer ce que vous êtes pas censé voir.
Mais pour moi, ça reste
très vaporeux.
Pardon, l'anticipation de ce qu'on s'apprête à manger. C'est-à-dire qu'il y a aussi effectivement ce dévoilement de la chose qu'on s'apprête à mettre dans son propre ventre.
Oui.
Donc il y a un rapport de l'acte de consommation sur le point de se faire. C'est-à-dire qu'est-ce qui est pornographié, au fond, quand on fait du food porn? C'est le plat, c'est peut-être aussi un peu soi-même quand même. Enfin, je sais pas. Mais...
Une pornographie du soi, du self.
Ouais, bah, de ce qu'on apprête à ingurgiter, au fond, quoi. Vous voyez? C'est-à-dire l'amont du processus digestif, en quelque sorte, non? C'est un peu ça aussi qu'on met en avant, quoi.
Quand les gens se retrouvent, Hélène Binet, dans les événements que vous organisez ou allez organiser autour de la nourriture, cette joie ou cette excitation dont on parle ou ce plaisir, il est partagé? Ça fait partie des discussions? C'est mis en mots?
Alors oui, c'est une mise en mots parce qu'en fait, les membres des ruches ne parlent que de ça quand ils se voient. Donc,
ça voilà. Aussi, c'est une expression très sexuelle, ne parler que de ça.
Ouais, ben voilà.
Se voir, en fait.
Il ne parle que ça, oui, exactement. Oui, c'est vraiment le sujet. En fait, c'est le sujet, c'est le liant, en fait. Après, ils peuvent dériver sur d'autres thématiques, mais ce qui les rassemble, c'est ça avant tout. Et cette chose, voilà.
Ils en parlent en quels termes? Ce sont pas nécessairement des spécialistes, parce que là, non. On a quand même autour de la table des gens qui, même quand ils le font de manière amateur, le font d'une manière quasi professionnelle. Les gens que vous réunissez sont des gens comme...
Ouais, ils en parlent en termes gourmands. Voilà, ils vont dire, est-ce que t'as goûté cette crème fraîche? Vraiment, elle est incroyable. Voilà, est-ce que tu as... Et après, ils échangent leurs recettes, généralement. Et puis après, ils s'invitent. C'est quand même souvent, il y a quand même des liens forts qui finissent par se créer et finissent par manger ensemble régulièrement. Mais oui, ce sont vraiment des gourmands, avant tout. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar.
Oh, beat it, man, beat it.
Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar.
Ce sont les Andrew Sisters qui chantent Rum and Coca-Cola. On a beaucoup parlé de ce qu'on met dans son ventre et qui est plus ou moins solide. Est-ce qu'on parle de ce qu'on boit aussi régulièrement? Alors le vin,
oui.
Beaucoup.
Oui.
Quand même.
Oui.
Aitor.
Le vin, beaucoup, bien sûr. Non, ça fait partie des choses dont on parle beaucoup. Alors quel type de vin aussi maintenant, hein? Est-ce qu'on parle un peu des vins nature? Alors parce que c'est quelque chose que nous on a contribué à mettre en avant, qu'on apprécie tous. Ça va dans le sens de ce que vous faites à la rue, c'est-à-dire mettre en avant des vins qui sont fabriqués autrement, de manière plus responsable, avec moins d'intrants, et qui sont aussi de nouvelles saveurs, c'est-à-dire une nouvelle manière de goûter un produit qui est au fond complètement renouvelé.
Ça aussi, vous parliez tout à l'heure de la surprise et de la manière très marquante de vivre son corps et son palais lorsqu'on goûte à quelque chose de nouveau. Moi, je me rappelle quand même du premier vin nature. Bah oui. C'est quand même quelque chose dont on se souvient très profondément.
Bien sûr, et qui probablement dans un premier temps surprend ou peut-être même dégoûte, parce qu'on se rend compte en fait avec ces nouveaux goûts de vin nature qu'en fait les vins qu'on avait l'habitude de boire, les vins de supermarché, sont très conditionnés, très uniformisés, oui. Et que notre goût prend le pli. C'est ça le pire. C'est-à-dire qu'au fond, il faut un peu désapprendre pour réapprendre autre chose. Donc je crois que c'est lié. C'est-à-dire au fond, il y a une redécouverte des moyens mis en œuvre pour produire un vin, objectivement, mais aussi d'un renouveau du goût.
Puis je crois que quand important. On parle d'un vin nature, on parle forcément de celui qui l'a produit. Parce qu'il n'y a pas. Déjà, ça va être une surprise quand on va ouvrir ce vin. Même la personne qui l'a apporté, il n'aura pas forcément le même goût que la bouteille qu'il a apporté la veille. Mmh. C'est pas la même température. Donc quand on le sert, on est obligé de raconter en fait comment il a été produit, qui l'a produit et pourquoi il est comme ça, quoi. Quand on va chez les petits cavistes de vin nature ou de vin bio, ils nous déroulent toujours complètement l'histoire du vignoble. Mmh. Ils y sont allés plein de fois, ils ont des relations avec tous ces viticulteurs. Je crois que c'est ça, les vins nature, c'est qu'ils racontent toujours des histoires. Les bières, c'est un peu pareil aussi.
Oui. Moi, les bières, et en dehors du vin, bière, de quoi parle-t-on de liquide, de ce qu'on met dans son ventre?
En ce moment, on parle beaucoup du café, ce que je trouve génial, au même titre que le chocolat avant. On parle beaucoup des cocktails, on parle beaucoup des sakés, on parle beaucoup des sirops, de toutes ces...
Des sirops, sirops à l'eau?
Oui, enfin, en tout cas, je sais pas, en ce moment, j'en reçois beaucoup, moi. Mais
Oui, c'est vrai. Moi, j'ai bu récemment dans un restaurant une sorte d'orangina fait maison. C'était absolument délicieux.
Ouais. C'est la grande mode.
Les infusions, des coctions aussi. Alors peut-être parfois abusivement, quoi. Hein.
Les infusions, c'est très beau aussi, cette tendance en ce moment.
Tendance liquide.
Et solide, mais c'est vrai que les accords sont de moins en moins attendus, quoi. On a des cantillons sur du homard, on a des sakés sur du pigeon.
On a des menus de dégustation, accords
mété.
Ouais. On peut tous se jeter quand même sur le livre de Sébastien Barrier qui s'appelle Savoir enfin qui nous buvons et qui est publié aux éditions Actes Sud.
France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richeux.
14h52, on a failli arriver en retard. On a entamé depuis un an et demi une grande collection de récits sur la question, non pas qu'est-ce que vous avez mangé et qui vous a marqué, mais qu'est-ce qui vous a marqué tout court. Et cette semaine, c'est la réalisatrice Laetitia Merli qui s'est prêtée à l'exercice. Elle parle aujourd'hui d'un film, Ourga, qui sort en 1991, et qu'elle découvre à ce moment-là.
Je découvre ce film au cinéma, parce qu'il est sorti en 1991. Avec déjà cette grande baffe par rapport à la musique, avec une musique absolument grandiose qui m'a touchée au cœur tout de suite. Voilà, j'entendais la steppe, j'étais complètement dedans, quoi, avec cette musique incroyable, mongole. Et puis une musique vers la fin aussi assez classique et connue qui s'appelle les valses de Mandchourie. Donc Ourga, voilà, c'est l'histoire d'une rencontre aussi d'une famille d'éleveurs nomades. Ça se passe en Mongolie intérieure, hein, en Chine, avec ce Russe qui travaille pour une société et qui tombe en panne avec son camion pas très loin de cette yourte où vit une famille. Et donc c'est vraiment la rencontre comme ça, là, le choc culturel entre deux mondes. Avec le Russe qui leur tourne un peu le dos au départ, parce que bon, il a rien à voir avec eux, il se dit qu'il va pas être accepté, et puis finalement les Mongols qui, au contraire, sont là, l'accueillent et lui disent non, tu es comme nous, quoi, viens manger avec nous et partage notre vie et tout ça avec plein de musique, plein de vodka et plein de bonne humeur. Donc voilà, c'est la suite un peu des Lamaillards et de tout ce que j'avais pu lire sur la Sibérie et la Mongolie, jusqu'à y aller en 1997. Donc en 1997, en novembre, j'atterris à Oulan-Bator, après un voyage complètement épique, avec un arrêt à Novosibirsk, avec plein de vodka dans l'avion. À l'époque, on fumait encore dans les avions, et je me souviens de tous ces Mongols et tous ces Russes qui fumait et buvait de la vodka dans l'avion. Et j'atterris, il fait moins 27 degrés, directement sur le tarmac, sans tunnel, là. Et là, je me prends le froid au visage. Et puis, j'ai l'impression d'atterrir en plein milieu de la steppe, là, dans un petit aéroport, qui est quand même l'aéroport international de Ulaanbaatar, qui a bien grandi depuis. Mais voilà, à l'époque, ça, j'ai l'impression que j'atterrissais dans la steppe. Et puis, voilà, ça a été le début de mes aventures en Mongolie et du début de mon terrain. Hein. En anthropologie, on fait des terrains, donc on se met en immersion complètement dans une culture. On vit avec des gens, on se fait pratiquement adopter par des familles pour comprendre comment ça marche, comment ils vivent.
Et en atterrissant, vous vous dites encore « ici, c'est chez moi ». Vous avez le même phénomène de reconnaissance ?
Oui, avec ce désir tellement obsédant. Et la Maillard disait ça aussi, quand les désirs sont obsédants, la meilleure façon de s'en débarrasser, c'est de les réaliser. Voilà, donc là, j'y étais. J'avais ce sentiment juste d'être à ma place et d'y être, quoi.
Sur les collines de Mandchourie, cette valse célèbre qui date de 1906, initialement composée par Ilya Alexeïevitch Chatrov et évoquée par Laetitia Merli, qu'on retrouve demain à la même heure. Hélène Binet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. La ruche qui dit oui.fr et bientôt un site pour Fruchtruc.
Sans doute une page Facebook.
Voilà, c'est souvent un bon début. Merci beaucoup Raphaël Marchal d'avoir été avec nous. On renvoie
merci.
En randonnion.fr. C'est un lien vers toutes vos activités.
Non, mais bientôt.
Et quant à vous, Aïta, on peut lire vos chroniques sur lefooding.com.
Oui.
Ou bien en allant en classe prépa littéraire et comme ça, on entend parler de chou farci.
Oui, il faut déposer son dossier au mois d'avril.
Ce sera fait. Les nouvelles vagues sont terminées pour aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous avez mangé tout à l'heure, mais j'espère que vous mangerez bien ce soir. Pour écouter les nouvelles vagues, franceculture.fr. On peut s'abonner au podcast, trouver toute la programmation musicale. Elle arrive parfois un tout petit peu tard, mais soyez patients. On peut s'écrire sur franceculture.fr via Twitter et Facebook. Merci à Romain Debecq de Lièvre, Inès Duperron, Alice Ramon qui sont de bons convives à la cantine. C'est une émission qui est réalisée par Somanina, avec aux manettes aujourd'hui Bruno Gagnère-Fontani et au droit d'auteur Jean-François Souvili. Je vous retrouve demain à la même heure.